Bonjour à toutes et à tous. Notre invité de ce jour se nomme Tom Loretan. Tom, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter rapidement ?
Alors, j'ai 23 ans. Là, actuellement, je suis en stage au RLC, dans la section d'éducation de rue.
Donc, le centre de loisirs de Sion RLC.
Exactement, ouais, qui se trouve au nord de la ville, dans le but d'entrer en HES, en fait, donc dans la formation bachelor pour le travail social en section éducation.
Tom, on va évoquer ensemble deux facettes très différentes de votre existence. La première, c'est l'aspect professionnel dont on vient de parler. Et la deuxième est une facette artistique, puisque vous êtes membre du groupe Fleuve Congo, dont le style est orienté plutôt rock. Mais tout d'abord, donc, le côté professionnel. On va commencer par parler de l'expérience que vous avez eue dans le cadre de votre service civil au LOCL. Vous avez travaillé avec des enfants et adolescents dans quel type d'institution ?
C'est un centre pédagogique qui mélange à la fois un internat et une école. Et du coup, en tant que civiliste, on les suit toute la journée à l'école, le temps des récréations, puis on les suit le temps de midi et les soirées à l'internat.
Ce sont donc des enfants qui ont des difficultés particulières, j'imagine.
Ils sont surtout nés dans des situations familiales difficiles, ce qui fait qu'ils ont été placés dans un internat. Alors forcément, ça a des séquelles sur la plupart de diverses valeurs, un peu. Mais ça se voit surtout, je pense, dans le comportement, ouais. Des fois des comportements un peu plus difficiles, mais vraiment dus directement à leur situation familiale.
Et vous, vous êtes occupé d'enfants de quel âge ?
Alors, moi, j'étais dans une classe qui avait 7 et 8 ans. Ils
D'accord.
étaient 4, ouais.
Comment se sont passés les premiers jours de travail pour vous, dans le concret ?
Je dirais que c'est presque une claque, quand même. C'était une situation que j'avais jamais vraiment vécue. C'est vrai que quand on grandit ici en Valais, dans la montagne, on n'est pas forcément directement en contact avec d'autres chemins de vie un peu plus compliqués. J'ai l'impression qu'on est quand même assez privilégié. Donc là, de voir des enfants qui ont grandi dans des situations plus crues, c'était une belle claque. Donc je dirais que le fait d'avoir des comportements difficiles tout le long de la journée, ça a été un peu difficile pour moi au début, ouais.
Et est-ce qu'il a fallu plusieurs jours, voire plus encore, aux élèves pour vous accepter, pour vous adopter, entre guillemets ?
Je dirais que pour la plupart, c'était assez rapide. Le fait d'avoir un jeune qui était un peu moins loin au niveau de l'âge que leurs profs, leurs éducateurs et éducatrices, c'était assez facile, ça faisait vite un compagnon de jeu, en fait. Et je pense que pour certains qui étaient peut-être plus réticents à une nouvelle rencontre, peut-être que ça a mis un mois sur six, je dirais un mois, ouais.
De manière générale, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience sur le plan personnel ?
Très bien. Je dirais une grande nouvelle aventure, un peu. Je ne savais pas exactement où était le LOCL, en fait, quand j'ai choisi ça. C'était juste pour pouvoir faire une expérience hors Valais. Et c'est qu'après que je me suis rendu compte que c'était vraiment tout au fond de la Suisse. Je crois que je mettais genre 5 heures porte à porte. Donc c'est vraiment un beau voyage pour rentrer le week-end et revenir le dimanche. Je le garde vraiment comme un pur souvenir, en fait. Le fait d'avoir pu expérimenter solo une expérience vraiment loin du Valais, ça m'a vraiment fait du bien.
Et puis, du point de vue vraiment de l'activité, comment vous avez vécu ça ? Vous m'avez dit un petit peu difficile au début,
ouais.
Mais petit à petit, vous êtes vraiment bien rentré dans le bain, ça s'est bien passé pour vous ?
Ça s'est bien passé, ouais, carrément. En fait, ça m'a carrément donné envie de me former là-dedans. Et je pense que c'était une conséquence assez instinctive du fait que plus j'avançais, plus je voyais les outils qui me manquaient, en fait. Plus je me rendais compte des erreurs que je faisais. Genre, typiquement, je suis devenu trop vite un peu leur pote. Et du coup, j'avais plus cette facette autoritaire. Ce qui fait qu'eux, ils étaient aussi un peu déphasés quand la journée je jouais avec eux. Mais d'un coup, que je sais pas, genre pendant la classe, je devais être un peu plus autoritaire si je devais assister un peu la prof. Donc, ils comprenaient plus vraiment mon rôle. Et je pense que c'est en fait vraiment, vraiment dû à moi, en fait, et dû au fait que je connaissais pas trop mes limites, je connaissais pas exactement la manière qui était appropriée de leur parler. Les limites aussi, ouais, à partir de quand je devais dire stop, à partir de quand c'était trop un langage familier. Donc ouais, je pense que ça m'a permis d'apprendre vraiment tout ce que je connaissais pas, en fait. De me dire, ok, il y a toutes ces thématiques que j'aimerais apprendre. Et je me dis, ah ben trop bien, c'est vraiment une chose que je pourrais plus élargir si je vais en formation sociale.
Est-ce que vous avez un souvenir particulièrement poignant d'un élève ou d'un cours particulier qui vous revient en tête, quelque chose qui vous a touché ?
Alors malheureusement, la plupart des souvenirs que j'ai avec les jeunes, c'est des souvenirs assez trash, plus violents en fait. C'est des violences que j'avais un peu moins vues et forcément, ils ont des chemins de vie tellement durs que quand il y a violence, ça éclate en fait. C'est pas comme nous, vraiment d'un coup on est fâché et puis on sort. Là, ça éclate et tout, c'est la bagarre générale quoi. Donc la plupart des souvenirs intenses que j'ai avec les jeunes, c'est des moments où ils éclatent et puis ils me sautent dessus pour me frapper. Donc ça, c'est plus les souvenirs que j'ai dans ma tête. Mais des moments cool pour garder des anecdotes plus positives, je pense que c'est les sorties. Comme ils vivent pour certains toute la semaine, enfin toute l'année, pendant plusieurs années, ils vont vivre vraiment dans l'internat, parce qu'il n'y a pas moyen de rentrer chez leurs parents. Je pense que c'est les sorties. Là, typiquement, je me rappelle d'un jeune avec qui on a juste été au coiffeur. On a été à la Chaux-de-Fonds, qui est vraiment juste à côté du Locle. Et c'était la sortie du mois pour lui, quoi. C'était trop cool. Puis il était méga fier d'arriver au coiffeur, de se faire une nouvelle coiffure, revenir à l'internat tout nickel, tout beau gosse. C'est trop cool, c'est des moments qui permettent aussi un petit peu de respirer et de sortir de cet enclos un petit peu, même si c'est le lock, c'est méga ouvert, puis eux ils ont la possibilité de bouger un peu. Ça reste finalement une forme d'enclos où ils sont tout le temps avec les mêmes personnes, encadrés, et un petit peu moins de liberté que quand on se permet de sortir en ville, quoi.
Est-ce qu'ils sont en permanence en révolte parce que, évidemment, comme ils préféraient être en famille, ils n'ont pas vraiment envie d'être là? Ou est-ce que, assez souvent, petit à petit, ils arrivent quand même à se faire à l'idée, à se dire que c'est quand même mieux pour eux qu'ils soient là, qu'ils aient un entourage un peu stable, etc.
Ouais, en fait ça dépend vraiment, je dirais que ça dépend vraiment des jeunes, mais surtout de l'âge et de leur situation. Ouais, en fait il y a beaucoup de facteurs. Je vois un peu plein de cas de figure, je vois des adolescents qui sont vachement faits à l'idée, qui sont plus réticents, qui même cèdent entre pairs à se dire non mais attends, genre d'un coup peut-être des adolescents qui vont se révolter contre des éducateurs vont se faire presque reprendre par ses potes en fait, leurs potes, ils disent non, attends mais t'es là. Si t'es dans l'internat, c'est pas pour rien, ils sont là pour t'aider. Mais il y a quand même pas mal de plus jeunes enfants qui sont très révoltés, surtout le lundi en fait, parce qu'ils viennent de passer tout un week-end chez leurs parents, c'est la monstre fiesta. Surtout que, du coup, c'est des parents qui les voient pas souvent, alors ils leur offrent beaucoup de cadeaux, et du coup, ils reviennent le lundi, et là, il y a un peu de révolte, ouais.
Tom, si je vous demande de jeter un regard critique sur la prise en charge de ces enfants dans cette institution, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce qu'il y a des points qui, à votre avis, pourraient être améliorés?
Là, comme ça, à froid, je dirais non, je vois pas exactement, parce qu'il y a un bon lien, je dirais, entre l'école et l'internat. Donc, vraiment, les travailleurs sociaux et les éducateurs, les travailleurs sociaux et les profs.
Une bonne communication
Ouais.
entre les deux, entre ces deux pôles.
Ouais, exactement. Ouais, il y a vraiment un bon lien et il y a la même direction, je dirais, au niveau de l'éducation de ces jeunes. Donc. J'ai vu plus des critiques par rapport au rôle de civiliste que j'avais que au niveau de l'institution.
C'est-à-dire des critiques au point de vue par rapport à votre rôle.
J'ai l'impression que le rôle il est assez compliqué du fait qu'il nous manque des armes, en fait, on est un peu démunis. Comme on a un rôle de civiliste, on n'est pas très officiel dans l'institution. Ça fait que, par exemple, on n'a pas accès aux colloques, aux réunions un peu générales, on n'a pas accès aux dossiers. Il y a plein de raisons qui sont carrément compréhensibles. Mais du coup, on manque d'armes par rapport aux autres travailleurs qui sont là, travailleuses. Du coup, on est un peu démunis. On doit être à la fois accompagnant, assistant. Du
Vous
coup, on
n'avez
a
pas
plein.
accès à toutes les informations, à tout
Voilà, il y a
le...
plein de choses qu'on ne connaît pas sur les enfants, on ne connaît pas leur vie. Et moi, je me suis senti un peu démuni quand je parlais avec les enfants, parce que d'un coup, j'ai parlé avec des enfants qui étaient orphelins, mais je ne le savais pas. Et du coup, des fois, je trouvais que c'était un peu. Dangereux en fait, parce que d'un coup j'allais dire ah, mais trop bien, ce week-end tu rentres chez ton papa, puis l'enfant en fait il est juste orphelin, puis je pensais des choses qui devraient être su. C'est mon point de vue par rapport à la connaissance qu'on devrait avoir en tant que civiliste quand on arrive.
Donc ça pourrait être changé, malgré tout.
Ouais, mais je pense que c'est des normes légales en fait, je dirais. Du fait que le civiliste n'est pas formé, je pense qu'on lui donnera pas un accès parce que ça demande forcément un peu de formation, d'expérience. Peut-être qu'il faudrait faire au cas par cas.
Tom, on va passer maintenant au stage que vous êtes en train de faire maintenant, donc au Centre de loisirs de Sion, RLC. Vous êtes un stage d'éducateur de rue. Quelles sont les différentes activités d'un éducateur de rue? Et puisque éventuellement, vous pouvez donner un petit exemple concret à chaque fois.
Alors, ben principalement, je dirais qu'on essaye de faire des projets avec les jeunes. On fait pas mal de prévention dans les classes. Là, moi, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir participer à deux projets. Un projet, c'est une campagne de respect où il y a différents temps, mais celui dans lequel moi j'ai été incorporé, c'est le temps 3, où on va dans des classes de 8H, donc de 6e primaire, et on fait une présentation sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Du coup, ça nous a pris un grand temps, donc pas mal de contacts directement avec les jeunes dans les écoles. On a pu faire un autre projet sur l'hypersexualité avec des troisièmes du cycle.
Vous pouvez nous définir ce qu'est l'hypersexualité?
Le regard qu'on a d'hypersexualiser, donc de trop sexualiser, souvent c'est des jeunes enfants, des jeunes ados, à travers les médias, à travers notre représentation un peu dans différentes formes, que ce soit le cinéma, que ce soit la pub ou simplement notre culture. Trop sexualisé, mais c'est souvent quand même vachement le corps des femmes qu'on sexualise trop par notre regard.
Alors on l'a dit, donc vous allez dans les classes. Est-ce qu'il y a encore d'autres activités qui peuvent être faites dans le parcours d'un éducateur de rue?
Ouais, je dirais que la deuxième grande activité, c'est les suivis. C'est chaque éducateur a plusieurs suivis personnels qu'il suit de manière, comment on peut dire ça, cyclique, aux besoins un peu de chaque personne. Souvent, ça peut être c'est des fois des suivis personnels. Ça va du très jeune au très adulte, pour utiliser le terme adulte. Et des fois, c'est souvent des familles. Moi, j'ai eu plus la chance de pouvoir suivre des suivis familiaux, pas mal de familles monoparentales, où il y a besoin peut-être d'un petit peu de soutien, peut-être d'un peu de matériel pédagogique qu'ils peuvent utiliser avec les enfants.
Les personnes qui ont besoin de conseils, d'écoute, etc., peuvent aller aussi chez un psychologue, un psychiatre. Pourquoi est-ce qu'ils iraient plutôt ou aussi chez un éducateur de rue?
Waouh, excellente question, j'adore. J'ai l'impression que l'éducateur de rue peut facilement aiguiller vers d'autres réseaux. J'ai l'impression que c'est peut-être ça son principale carte joker. C'est-à-dire qu'il pourra facilement, selon les besoins de la personne, aiguiller vers, je sais pas, je pourrais être Addiction Valley par exemple, s'il y a un problème d'addiction, ou vers le CIP, s'il y a un souci avec peut-être la santé sexuelle ou des questions par rapport à ça. Et l'éducateur de rue a, parmi son jeu de cartes, plein de cartes de réseau vers lesquelles il peut aiguiller un peu la personne qui l'a en suivi.
Et puis, il y a le mot éducateur de rue. Donc, est-ce qu'il vous arrive quand même d'aller dans la rue et d'essayer de voir s'il y a des gens qui auraient besoin de soutien, d'écoute?
Ouais, carrément. L'envie est là en tout cas. Il y a pas mal de projets qui prennent souvent du temps, mais l'envie est là d'assurer une grande présence dans la rue, de pouvoir être peut-être facilement reconnu, histoire de peut-être pas repousser les gens, puis que les gens puissent facilement venir un peu à l'éducation de rue.
Et puis, il peut aussi arriver que des éducateurs de rue soient appelés, par exemple avec des jeunes qui feraient vraiment beaucoup de bruit ou où il y a un début de bagarre, parfois pour éviter le contact avec la police. Dans un premier temps, est-ce que ça, je crois que ça arrive.
Ça arrive, ouais, et même des fois des pas jeunes. On m'a raconté que c'était par exemple une personne âgée qui foutait un peu le bordel dans un bus. Donc ça peut être du jeune au moins jeune. Et ouais, c'est pas mal d'appels des fois de la part des écoles ou de la part d'institutions comme une piscine par exemple, qui font l'appel justement à l'éducation de rue pour venir faire déjà un premier contact qui nécessiterait pas un appel à la police.
Une autre activité qu'on oublierait encore dans le cadre de...
Ben dans le cadre du RLC, l'éducation de rue est aussi en collaboration avec l'animation. Donc on peut la retrouver sur différents projets d'animation, que ce soit au Tipeee, que ce soit les différentes manifestations qu'organise l'animation. J'ai l'impression que ça se décline vraiment en trois, en suivi, en présence dans la rue et en prévention dans les classes.
Très bien, c'est
J'ai
les trois
l'impression.
choses principales, oui.
Ouais.
Qu'est-ce qui, dans l'activité d'éducateur de rue, est très différent de ce que vous auriez pensé au départ?
J'ai l'impression que, comme dans beaucoup de jobs dans le social, c'est tout le travail en amont qui se fait au bureau. C'est-à-dire que j'imagine, comme beaucoup, j'ai directement pensé éducateur de rue à la présence publique. Et il y a forcément une réalité des projets qui demandent vraiment beaucoup de préparation. Donc c'est préparer le projet, contacter le réseau, peut-être se former, lire pas mal de documentaires, de thèses, essayer un peu de s'informer par rapport au projet qu'on est en train de réaliser, et ensuite, une fois qu'on l'a réalisé, faire des rapports, répondre à différents mails. Tout ça pour dire qu'il y a pas mal de préparation et ensuite de post-réalisation au bureau. Je dirais que c'est ça. Le fait de passer beaucoup de temps au bureau, c'est une réalité que j'avais pas vraiment réalisée avant de venir au RLC.
Est-ce que vous avez un souvenir particulier qui vous vient à l'esprit de nouveau, quelque chose de vraiment qui vous a vraiment motivé, intéressé?
Je dirais, comme j'ai eu le plus de contact que j'ai eu avec les jeunes, c'était dans les classes. C'est peut-être leur réflexion, leur questionnement à leur âge en fait. J'essaie de me projeter un petit peu dans leur étape de vie, que ce soit d'un coup la fin de la primaire ou la fin du cycle, et de me remettre un peu dans cette position-là, dans ces tourments aussi. C'est quand même, c'est pas des étapes super faciles. Et ben, j'ai été étonné sur un grand panel en fait, autant des fois par des questionnements que je trouvais super matures, vachement en phase avec les soucis dans lesquels ils sont en train de plonger maintenant, et puis dans lesquels on est tous en train de plonger. Je pense d'un coup à des soucis peut-être qui ont plus de valeur écologique ou de lutte un peu pour les minorités. Et à l'inverse, des fois j'ai été étonné peut-être plus avec les troisièmes du cycle, à la puissance avec lesquelles on a nos préjugés, qu'on a avec, je dirais, notre génération, la génération de nos parents, qui ont quand même été transmis. Et j'ai trouvé des jeunes de troisième du cycle avec des préjugés de l'âge de mes grands-parents, quoi, sur l'homosexualité, sur le féminisme, sur l'écologie. Donc j'ai l'impression qu'on a une jeunesse en dessous de nous qui offre un monstre panel de très matures, très éveillés à ben, les préjugés avec lesquels on ne s'est pas défait en fait.
Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette activité?
L'imprévu, je dirais. On peut passer une journée, on avait imaginé d'un coup faire que des rapports ou lire juste sur une étude. Et finalement, d'un coup, on peut être appelé en urgence. C'est quand même plus de l'ordre des professionnels que pour le stagiaire, mais d'être appelé en urgence pour aller régler un souci, pour finalement faire un suivi ou un suivi qui est annulé ou un suivi qui vient pas. Je dirais c'est l'imprévu un peu qui me plaît dans une journée, de savoir qu'à tout moment, ça peut changer, on peut arrêter. C'est aussi des horaires plus flexibles. Parce que des fois, il va y avoir peut-être des tournées de rue qui vont finir tard, donc le lendemain, peut-être on est moins là. Ça me plaît. Le fait que ce soit un peu imprévu et de ne pas avoir un horaire fixe où on sait exactement comment ça va se passer toute la semaine.
Tom, on va maintenant aborder un autre pôle de votre existence, c'est celui de la musique. Vous êtes donc membre du groupe Fleuve Congo depuis combien de temps?
Alors, on a commencé à jouer en 2018, si je ne fais pas d'erreur. Donc moi j'ai intégré le groupe de Fleuve Congo en 2018.
Vous jouez de la batterie, est-ce que vous avez pris des cours ou vous avez tout appris tout seul?
J'ai pris des cours pendant 10 ans avec un professeur de Sion qui s'appelle Donato Villani, qui est aussi un ancien batteur de Fleuve Congo. Et après j'ai fait 4 ans de pré-pro à Martigny, à l'Ejma.
Vous jouez aux côtés de votre père, Nicolas Loretan. Qu'est-ce que ça signifie? Comment ça se passe de jouer dans le même groupe que son père?
C'est très pratique. C'est ultra pratique
Parce que...
parce que le local est en bas de chez nous, alors en 2 minutes on est prêt à la répétition avec son père, ça c'est très pratique.
En dehors de ça, est-ce que c'est un peu particulier parce que vous êtes de la même famille?
Ouais, c'est quand même une réalisation sympa parce que on a suivi pas mal de festivals où mon père jouait avec mon frère quand on était petit. Du coup, ouais, c'est cool de passer de l'autre côté et puis de jouer avec lui. Ouais, et c'est vrai que finalement, même si on a beaucoup d'instruments à la maison, qu'on joue tous, on prend très peu le temps de jouer ensemble. Du coup, là, ça nous force un peu à le faire et c'est trop bien. On prend beaucoup de plaisir.
Votre dernier album est sorti il y a maintenant 2 ans à peu près, quelque chose comme
Ouais,
ça. Est-ce que vous
3 ans.
pouvez nous en parler de cet album?
C'est un album fait à la fraîche parce qu'on l'a totalement enregistré chez nous et fait mixer par un pote à nous qui s'appelle Guillaume Rey, avec qui on travaille souvent. Et après, il a été masterisé à Londres. Du coup, il a quand même été fait maison, je dirais. Donc, c'est un album qui est brut, qui vient vraiment directement de nous, et qui nous a satisfaits, et qui nous a donné envie de continuer encore à pouvoir aller plus loin avec la musique qu'on fait.
Le nom de l'album?
Funny Monkey Radio, drôle singe radio.
Tom, on se retrouve par Skype. Pour les raisons pratiques, la suite de cette interview va se faire par Skype. Est-ce que vous trouvez un bon équilibre entre vos activités musicales et professionnelles? Est-ce que parfois vous êtes vraiment débordé, chez débordé?
Alors pour l'instant ça va, je suis assez chanceux, il y a un bon équilibre, mais c'est vrai que des fois il y a des périodes où avec les différents projets ça se chevauche un petit peu, parce que c'est des périodes où tout le monde soit est en train de sortir un CD ou de préparer un live ou même être en tournée. Donc il y a des périodes de l'année où c'est plus chaud et des périodes de l'année où c'est plus tranquille. Mais pour l'instant je suis assez chanceux, l'équilibre se fait bien.
Quel serait pour vous votre meilleur souvenir de concert?
Alors, je crois que le meilleur souvenir de concert que j'ai pour l'instant, c'est encore le tout premier concert que j'ai fait avec mon premier groupe de musique qui s'appelait Les Perrottes. Et on l'a fait pour une fête de village en 2009. Du coup, à l'époque, j'avais 10 ans. Et ouais, je crois que ça reste encore le souvenir le plus intense que j'ai eu de concert pour ce côté track, en fait, juste avant, comme une grosse peur, en fait, de se lancer comme ça pour la première fois devant un public. Et ça a été trop cool. On a beaucoup kiffé cette première expérience.
Aujourd'hui, vous avez toujours un grand trac avant chaque concert?
Pas vraiment, sauf peut-être pour des vernissages, des projets où on ne sait pas exactement ce qu'on va. Enfin, où on a moins confiance de ce qu'on va offrir aux gens, au public. C'est vrai que là, on a quelques sets avec les différents groupes que j'ai qui ont déjà tourné pendant 1 ou 2 années comme ça. Du coup, on est plus confiant et ils sont de plus en plus préparés. Donc là, on a moins de trac que sur des sorties de projets ou sur des vernissages où on redoute un petit moment avant de pouvoir jouer devant un public.
De manière générale, est-ce que vous préférez les concerts en plein air ou en salle?
Je crois qu'il n'y a pas trop de différence pour moi. Ce serait plus par rapport au public qui est présent et puis nous, dans quel mood on est à ce moment-là. Mais c'est vrai que l'intérieur ou l'extérieur, les deux me vont très bien.
Est-ce qu'en général, vous ressentez vraiment le public? Bon, bien sûr, il y a les applaudissements à la fin de chaque morceau, mais pendant le morceau, est-ce que vous sentez un petit peu le... Comment réagit le public?
Ouais, pas mal même. On est assez attentif à ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on essaye de pas mal travailler avec nos groupes, d'avoir la même puissance selon que le public soit réceptif ou pas. C'est vrai que moi, je suis encore assez impacté si je vois que le public ne suit pas trop ou part chercher des bières ou parle en même temps. Moi, je suis encore assez impacté alors qu'on aimerait beaucoup être assez confiant de ce qu'on fait et avoir l'énergie entre nous pour ne pas être impacté par le public. Que le public soit qu'un bonus à la fin. Que si le public est à fond avec nous, c'est trop cool. Mais si d'un coup le public n'est pas avec nous, parce qu'on a quelques concerts où il y a vraiment moins de gens, où on joue dans des bars, où c'est une population qui est moins attentive, on se doit d'avoir les ressources entre nous pour quand même jouer à fond, même si le public n'est pas vraiment là, quoi.
Vous jouez donc de la batterie, est-ce que vous composez également?
Ouais, je compose au piano pour d'autres projets, dont un qui s'appelle Mariposa. Là, il y a pas mal de compos.
C'est le nom d'un autre groupe, hein?
Exactement, ouais.
Et prochainement, est-ce que vous avez des concerts en vue?
À fond. Alors avec Mariposa, le projet dont je viens de parler, on est le 10 juillet au Pollen Festival, qui est un festival super cool à Sion, qui mêle pas mal d'art vivant, dont la musique. Il y aura de la performance, de la danse, du théâtre aussi. Et avec Fleuve Congo, on a quelques petits concerts privés cet été, mais il me semble qu'on a 2-3 concerts publics fin d'été, début automne. Mais normalement, toutes les dates seront sur le site fleuvecongo.ch. Disponible directement sur Internet.
Tom, il me reste à vous remercier pour cette interview et à vous souhaiter le meilleur pour la suite.
Merci beaucoup, merci à vous Christophe pour les questions et l'intérêt que vous avez porté pour cette interview. C'est super gentil.
Merci. C'est ainsi que se termine cette interview. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à bientôt.